sujet de l'heure. Voici Robert Pilote au 106.9 Mauricie.
11h48, un beau jeudi tout le monde. De la neige à prévoir au cours des prochaines heures. Avec Paul Oud, un peu plus tard dans l'émission, on va revenir sur cette idée d'envoyer encore une fois des êtres humains sur la Lune. Et la NASA demande entre autres au Canada de faire un petit effort, de mettre un petit milliard de dollars dans le projet pour envoyer des hommes sur la Lune. Personnellement, je trouve que c'est un peu niaiseux de dépenser de l'argent pour ça. On pourrait faire bien d'autres choses avec ça, cet argent-là. C'est à l'époque qu'on justifiait les voyages autour de la Terre et sur la Lune et l'exploration spatiale jusqu'à Mars et ailleurs pour des raisons scientifiques, pour comprendre notre monde et amener d'autres découvertes, entre autres. Mais là, je ne sais pas
Pourquoi ce ne serait pas l'objectif à ce moment-là?
Non, mais c'est parce que le milliard de dollars, là, toute la recherche qu'on va faire pour renvoyer l'homme sur la Lune, OK? Est-ce que ces recherches-là, ces efforts-là, ces sommes d'argent colossales ne devraient pas être consenties pour solutionner certains problèmes criants dans le monde? La soif, entre autres, la faim, pour pallier aux problèmes, entre autres, de déforestation. Bon, on a parlé tout à l'heure des incendies de forêt. Bon, en tout cas, on va en parler avec Paul Lude tantôt à sa chronique de 13h05. Elle est bien intéressante, celle-là. Hydro-Québec, Bell Canada, Métro, des banques ont été déjouées par des pirates informatiques. Okay. C'est une compétition qui s'est déroulée. Les meilleurs hackers au Canada, et la compétition se déroulait à Québec, les meilleurs hackers au Canada étaient là et avaient pour objectif d'infiltrer ou d'obtenir des informations sensibles sur Hydro-Québec, Bell Canada, Métro, puis Télé-Québec, puis bien d'autres encore. On va en parler avec Steve Waterhouse, un spécialiste en sécurité informatique. Allô, Steve?
Bonjour, Robert.
D'abord, je ne savais pas que c'était un jeu, que les hackers pouvaient se faire des compétitions et puis qu'on puisse obtenir les résultats de nos meilleurs hackers. Savais-tu que ça existait, ce type de compétition-là?
Absolument. Ça fait partie, justement, d'une fonction dans le monde de la sécurité informatique, de vérifier si les processus sont suivis, parce que le maillon faible dans la sécurité de l'information, c'est souvent l'être humain. Et l'exercice qui se sont prêtés, donc, dans le Hackfest, bien, c'était vraiment de prendre connaissance donc d'une entreprise, puis après ça, aller chercher de l'information. Parce que la majorité du temps, lorsqu'il y a intrusion dans un réseau, peu importe laquelle organisation, ça débute par une intervention humaine, par une interaction. Et si les gens ne sont pas bien documentés, pour pas dire formés, à repérer peut-être des tentatives d'intrusion, bien, l'information fuit à ce moment-là et plus qu'il y a d'informations qui viennent de l'intérieur de l'organisation, plus ça donne de la matière ou des outils aux malfaisants pour être capable de rentrer et contourner les mesures de sécurité.
Bon, on a parlé de piratage éthique. On a pris les 10 meilleurs, en tout cas les vedettes du hacking, les hackers qui viennent d'un peu partout à travers le Canada. Les 10 participants devaient contacter les sociétés sélectionnées au hasard avec un téléphone, simplement une ligne téléphonique, pour soutirer des informations qui vont permettre éventuellement, tu le dis, d'accéder à des systèmes, les pirater et puis éventuellement peut-être les faire chanter comme ça a été le cas dans la MRC Mekinac. Dis-moi, quelles sont les informations qui pourraient être utiles à un hacker qui a des dessins qui ne sont pas très, très honnêtes?
Et Robert, je voudrais souligner aussi, il y avait des gens de l'international de France qui participaient à l'exercice en plus là-dedans. Là.
En plus?
C'est ça qui est fantastique. Là. C'est international, ce hackfest-là. Et pour répondre à ta question, c'est le plus d'informations possibles qu'on veut pour être capable, donc, de, après coup, s'attaquer au système comme tel. Donc, si on est capable de mettre la main sur de l'information sur qui gère le système d'information, quelle sorte de modèle d'ordinateur qu'il y a à l'intérieur, et après ça, les versions qui sont en fonction, etc., ce sont tous des éléments techniques qu'après coup, si j'apprends que la compagnie X héberge ces informations sur des serveurs Dell de troisième génération, puis qu'après ça, donc, okay, là, ça veut dire qu'on y fonctionne probablement avec Windows 2003, peut-être même 2008. Ah, ça, c'est à ce moment-là, j'ai une énumération de vulnérabilités avec lesquelles je peux m'adonner à aller tenter de d'entrer. Et là, après ça, on découvre que, ah, c'est un tel qui est l'administrateur, parfait. Et là, il y a du pourriel, donc du spam, qui peut s'en suivre par la suite pour être en mesure de tenter d'amener la personne à cliquer sur ces fameux spams-là, non pas pour avoir une rançon, mais bien pour être capable de télécharger une application et prendre contrôle soit du poste de travail ou de plusieurs dans l'organisation et de là commencer l'exfiltration ou la reconnaissance pour aller prendre l'information et possiblement après coup rentrer des logiciels pour soit crypter l'information avec un rançon logiciel ou bien tout simplement prendre l'information puis sortir de là, puis le pirate aura pris de la propriété intellectuelle pour la revendre sur le marché.
D'après ce que je peux voir, là, puis c'est un beau dossier que le Journal de Montréal a monté. Là. Puis écoute, des gros poissons, là, on était à pêche en haute mer, là, Hydro-Québec, Bell, Shell Canada, le CN, Métro, Télé-Québec, la Banque de Montréal. Écoute, tu sais, vraiment des gros poissons. Les informations qui sont obtenues ont été obtenues facilement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des failles importantes? Là, on a nommé ces compagnies-là, là, mais des failles importantes dans l'ensemble des compagnies québécoises et canadiennes.
Ben oui, parce que de cet exercice, c'est cité que 75 % ont des gens de ces compagnies-là ont visité l'URL, donc le lien Internet qui est envoyé par courrier électronique à ces compagnies-là. Ce qui est le premier vecteur d'attaque, excuse de dire ça comme ça, mais c'est la première méthode où quelqu'un qui veut faire des tests de pénétration, qui veut même, les méchants qui veulent entrer dans les organisations, vont lancer ces liens-là pour être en mesure d'attirer la personne à cliquer dessus, comme je disais tantôt, et d'amener le logiciel malveillant. Fait que 75, ça, c'est quand même un chiffre très élevé, parce qu'en 2018, là, on leur dit souvent comment ça se passe, puis pourquoi qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on clique dans un courrier électronique, puis systématiquement, il faut faire attention. Bon, puis l'autre bord du téléphone, c'est comme l'autre côté du clavier, on ne sait pas à qui qu'on a affaire, donc, j'ai comme pour dire, il faut assumer le pire, autrement dit, tant qu'on n'a pas personne en avant de nous, et même à ça, quand on est en avant d'une personne, ben il faut qu'elle nous prouve que l'identité, je veux dire, on se présente dans des hôpitaux ailleurs, dans des lieux publics, et il faut prouver maintenant notre identité plus que jamais, alors qu'avant, ben on connaissait un tel et un tel, parce que on côtoyait normalement, alors qu'il y a beaucoup de mouvements de personnes aujourd'hui. Il faut davantage s'informer sur avec qui on a affaire, parce que sinon, ça donne ces vulnérabilités-là. Les systèmes sont pas tout à fait étanches, et à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer qu'on donne le minimum d'informations si on se fait questionner en termes d'entreprise, et après coup, valider avec qui on fait affaire pour après ça juste rendre le service qui est à rendre sans nécessairement compromettre la sécurité de l'organisation.
Il y avait une dizaine de pirates qui participaient au concours là, ou à la compétition. Hackfest, tu l'as nommé tantôt. Il y en a 6 qui n'ont pas voulu être identifiés, qui ont voulu conserver leur anonymat. Pourquoi?
Parce que des gens, possiblement, qui travaillaient ici au Canada, au Québec, avec des entreprises publiques et privées. Et donc, ils se sont prêtés au jeu pour faire l'exercice, mais ne voulaient pas faire partie de participer, c'est-à-dire ils voulaient pas être dans le reportage pour être cité à ce moment-là, puis de risque de compromettre l'euro dans leurs organisations. Fait que ça, c'est une réaction normale parce qu'il y a beaucoup d'organisations publiques ou privées qui sont frileux avec le fait de faire ces exercices-là à l'interne chez eux parce que l'entreprise privée, veut dire, je l'ai vécu à quelques reprises, Robert, sont redevables souvent aux lois et obligations, mettons, comme une entreprise qui est cotée en bourse, bien, elle se doit d'être redevable à l'AMF si jamais il y a une intrusion, puis il y a quelque chose qui ne va pas bien, et au board de directeur. Fait que le CA, s'ils apprennent qu'il y a des vulnérabilités, ça veut dire des dépenses supplémentaires, donc il y a des engagements qu'il faut qu'ils prennent pour régler la situation, puis selon la loi, il faut qu'ils rapportent, etc. Fait qu'il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas ne dire, puis il faut le régler sans trop que ça paraisse sérieux, là. C'est du patinage artistique là-dedans, je m'excuse de dire ça comme exemple, mais c'est du délicat, alors que les organismes publics, ben eux autres aussi sont tenus au gage de transparence, et s'il y a compromission, il faut qu'ils les règlent et qu'ils les rapportent. Récemment, on a vu un exemple avec le DGEQ, où il y a un incident, puis c'est pas rapporté trop, puis c'est vraiment délicat ça aussi. Fait que, tu sais, une année, on est en 2018, et je dis tout le temps, faut qu'on travaille ensemble, je parle travaillant les gens, le particulier, les entreprises, les gouvernements, puis qu'on dise la vérité telle qu'elle est, puis qu'après ça, on avance, parce que sinon, on continue à tourner en rond, et il n'y a rien qui se règle. Fait que c'est pour ça que l'exercice qui a été fait de par le Hackfest, qui est exposé dans l'article du journal, de Nicolas Lachance, fait en sorte que ça donne cet élément de transparence-là, et ça nous donne leur juste, un peu plus juste d'ailleurs, que si jamais on laisse ça aller puis personne ne veut prendre d'action après coup.
Et en terminant, Steve, je suis le propriétaire d'une entreprise, une PME florissante, et je veux tester mes systèmes. C'est possible d'engager un hacker, mais est-ce qu'ils ont pignon sur rue? Comment on fait pour les contacter?
D'utiliser le terme d'aller chercher un hacker, comme tu dis, Robert, il faut faire attention parce que on peut prendre quelqu'un qui étudie en sécurité de l'information, en sécurité informatique, puis il peut faire le travail certainement, mais il faut faire donc un élément légal dans lequel il faut s'engager parce que si la personne dit oui, je vais te tester ça, puis ça ne prendra pas de temps, puis je te fais un rapport à la fin, puis dans le fond, il a infecté l'organisation, puis il l'exploite. C'est là que je parle qu'il y a des recours légaux, il faut qu'ils soient en bonne et due forme mis dans un contrat. Il y a des boîtes de consultation en sécurité informatique qui vont faire ce travail-là, donc d'aller avec le client faire l'accompagnement de différents niveaux là, qu'on peut faire la vérification. Merci. C'est-à-dire, on peut juste faire une détection de base. Sinon, on peut faire les consultants peuvent aller en profondeur. Oui, c'est un exercice qui est souvent bon à faire une fois par année, mais au moins, vous avez l'heure juste sur laquelle quel est l'état de votre sécurité et qu'est-ce qui est amélioré. Parce qu'autrement, vous allez l'apprendre de l'autre façon, qui est de se faire voler ou de se faire prendre l'information qu'on ne veut pas.
Merci beaucoup, Steve.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.
Steve Waterhouse, un spécialiste en sécurité informatique. C'est un beau dossier. Je ne savais pas que ça existait, toi, un festival de hackers réunis. Il y en avait une dizaine. Il y en a six qui n'ont pas voulu être identifiés. Et ils ont, avec le téléphone, simplement, obtenu des informations sensibles auprès d'entreprises aussi importantes, responsables, recommandables que Hydro-Québec, Shell Canada, Bell, la Banque nationale, Métro, CN, Télé-Québec, incroyable quand même.
Hein? Et pourtant, c'est des entreprises assez importantes. Hein? Et tu as eu des municipalités aussi qui ont eu des problèmes avec les pirates.
Absolument, oui. Ben, c'est la
ici,
MRC,
on le sait,
en
dans
fait,
la région.
La MRC Mikinak, oui. Qui a été obligée de verser un montant substantiel. Médipil, l'actualité, Marc-André Pelletier. Et au retour, Fabrice de Pierrebourg. Fabrice a enquêté sur le terrain. Vous savez qu'il y a des jeunes qui ont décidé, bon, je dis des jeunes, mais dans le cas qui nous occupe, c'est deux jeunes femmes. Fabrice de Pierrebourg s'est lancé à la recherche de jeunes qui sont allés en Syrie, entre autres, pour supporter l'État islamique. Le Canada refuse de rapatrier certains de ces gens-là, de ces filles-là et de ces gars-là, et leurs enfants également au Canada. C'est un dossier sensible. Témoignage à l'appui, tout de suite après le bulletin de nouvelles, Fabrice de Pierrebourg.